L'incrédulité, je dirais, parce que on a posé un système de prévention des incendies très récemment à Notre-Dame de Paris, et le fait qu'elle parte comme ça en fumée est surprenant.
Quand on est spécialiste, qu'on entend parler d'un sinistre comme celui-ci, est-ce qu'il y a une crainte qui vient à l'esprit en premier lieu concernant, par exemple, une partie du patrimoine ?
Ah, complètement, oui, oui. D'abord, il y a un premier réflexe, ça peut paraître ironique ou cynique, mais le feu, c'est le danger le plus grave pour un bâtiment médiéval au Moyen-Âge déjà. Et donc, il y a une certaine forme d'ironie de voir partir un bâtiment médiéval dans le feu, comme ça a été le cas de Notre-Dame cette nuit. Maintenant, sur le plan du patrimoine, ce qui est terrible, c'est, je crois que les images l'ont montré, la flèche est tombée. La flèche, elle se situe à la croisée du transept et de la nef, juste devant le chœur. Et il y a deux rosaces merveilleuses du XIIIe siècle aux extrémités des bras du transept. Et je n'ai pas vu d'image, je ne sais pas si elles ont été détruites ou pas, mais ce serait catastrophique.
Notre-Dame de Paris, ça représente quoi pour vous ? Est-ce que vous avez des souvenirs attachés à ces lieux ?
Alors, je n'ai pas eu de conversion catholique derrière un pilier de Notre-Dame comme Claudel. Je n'ai pas été sacré empereur comme Napoléon, ou je ne me suis pas sacré empereur comme Napoléon. Je n'ai pas de souvenir particulier à Notre-Dame de Paris, sinon ce souvenir diffus d'un monument qui est à la fois un bâtiment gothique rayonnant d'une beauté extrême, très grand, mais ce n'est pas la plus grande, hein. Et puis en même temps aussi un bâtiment qui a traversé pendant tout le 19e siècle des difficultés énormes jusqu'à sa restauration finale par Viollet-le-Duc. Et c'est le souvenir au fond d'un monument qui est à la fois réel et totalement irréel et construit notamment à travers le roman Notre-Dame de Paris de Victor Hugo.
C'est un monument qui a été pas mal modifié à travers les années. Qu'est-ce qu'il en reste du point de vue de l'histoire de l'art médiéval ? Quelle est l'importance de Notre-Dame de Paris ?
Alors, Notre-Dame est située sur une histoire très grande où se trouvent d'autres cathédrales gothiques. Et elle présente une façade qui est, je dirais, complexe, dans la mesure où il y a des restes romans qui se sont encore inscrits dans les portails. Donc elle représente au fond cette histoire longue du passage du roman au gothique, d'une part. D'un autre côté, au milieu du XIIIe siècle, avec son transept d'abord le nord, puis le sud, elle offre peut-être les deux rosaces les plus impressionnantes. C'est de la dentelle de pierre où il n'y a pratiquement plus aucun support. Et en cela, elle est remarquable, mais elle n'est pas encore une fois ni la plus grande, ni la plus haute, ni la plus longue, ni la plus ornée. Mais elle a quelque chose de... C'est Paris. Ça n'est pas, au Moyen-Âge, ça n'est pas l'archevêché. L'archevêché est à Sens, mais c'est quelque chose de symbolique parce qu'elle est au cœur de Paris, sur l'île de la Cité.
On parle maintenant de reconstruire. Pierre-Alain Mario, à quel point c'est possible de restaurer ce genre de monument à notre époque ?
Alors, d'après ce que j'ai vu, la toiture a totalement disparu. Donc, il n'y a plus de toiture. Si vous avez dans le souvenir visuel des images du bombardement de la cathédrale de Reims en 1914. C'est juste une charpente de pierre, ou bien peut-être plus près de nous, les ruines du World Trade Center, il y a à peine 20 ans. Ce sont des parements qui sont tout droits. Il y a apparemment plus de voûte, plus de charpente. On peut reconstruire, il va falloir consolider. D'abord, il faut voir que tout refroidisse, parce que la température a dû s'élever très très haut à l'intérieur de l'édifice. J'imagine que les verrières ont sauté, que certaines pierres ont éclaté sous la chaleur. Puis à partir de là, on va pouvoir reconstruire, comme on l'a fait assez souvent d'ailleurs. Je prends l'exemple de la cathédrale de Lausanne. Viollet-le-Duc, encore lui, à la fin du 19e, restaure la flèche et il pose, un peu comme une couronne de dentiste, il pose sur un moignon de flèche, la nouvelle flèche. Donc ça va être possible de le faire. Ce qu'il va falloir... Par contre, ce qu'il va falloir regarder attentivement, c'est ne pas tomber non plus dans le pastiche. J'ai lu ici et là qu'on allait reconstruire à l'identique. On ne reconstruit jamais à l'identique. Ce n'est pas une image qu'on visite, c'est un bâtiment. On traverse ce bâtiment. Cet incendie, ce n'est pas le premier incendie de Notre-Dame. Il y en a eu d'autres avant. Il y en a eu déjà au 9e siècle, il y en a eu au 19e siècle. Et puis, Notre-Dame va être reconstruite. Et ce sera toujours Notre-Dame, mais une autre Notre-Dame.
C'est un bâtiment très ancien. On ne va pas le reconstruire à l'identique, vous l'avez dit, mais il y a quand même de vieux corps de métier qui vont être mobilisés. Ils existent encore, les experts, les professionnels, les compagnons peut-être nécessaires à ce type de chantier ?
Oui, oui, il existe des compagnons, des compagnons précisément, qui font qui parcourent les chantiers dans l'Europe tout entière. Et puis, chaque cathédrale, en quelque sorte, a notamment à Lausanne, mais c'est le cas aussi dans d'autres endroits, a des corps de métier qui sont attachés à demeure, quasiment à demeure, et qui interviennent dans l'entretien, dans la restauration, dans la reconstruction à tout moment. On a des tailleurs de pierre, on a des maîtres verriers, on a des maîtres charpentiers capables de reposer une charpente à l'identique, si l'on veut bien. Je ne me fais pas de soucis de ce point de vue-là.
Et des historiens de l'art.
Et des historiens de l'art, mais c'est peut-être les moins importants dans cette histoire, parce que le bâtiment est si bien documenté qu'il faut juste un maître d'œuvre.